Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Micro Rebelle Hebdo, diffusée tous les vendredis de 18h à 19h sur notre site www.micro-rebelle.fr et rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. Micro Rebelle Hebdo propose chaque semaine un agenda social et culturel, un communiqué d'association, une revue d'actualité et de presse, des infos locales et internationales sur les luttes, les événements et les mobilisations à travers des entretiens, des reportages et de la musique libre. Alors, au programme cette semaine, une présentation du mouvement zapatiste et de leur venue prochaine ici. On aura également un communiqué du collectif ACAD, puis un reportage de Lucien sur le rassemblement pour les retraites à Lens ce vendredi 1er octobre, un autre communiqué du collectif Human Rights Observers, un agenda social et culturel, un reportage de Didier Eluc sur la mobilisation contre Tropicalia et de la musique. Alors, on vient d'entendre Himno Zapatista, c'est-à-dire Himne Zapatiste de l'écho râleur de Chambéry. Alors, qui sont les Zapatistes? Ce sont des communautés indigènes du Chiapas, dans le sud du Mexique, qui construisent leur autonomie depuis le soulèvement de 1994. Le site Universaliste nous en dit plus sur l'insurrection zapatiste. Le 1er janvier 1994, un groupe armé de quelques centaines de guérilleros de l'armée zapatiste de Libération Nationale investit 5 villes de l'État du Chiapas dans le sud du Mexique, dont San Cristobal de las Casas, deuxième ville de l'État, peuplée de 80 000 habitants-habitantes. S'inscrivant dans une ancienne tradition de révolte paysanne et indienne, les insurgés d'origine maya réclament la destruction du dictateur Carlos Salinas de Gortari et l'instauration d'une réforme agraire et dénoncent le génocide des Indiens, la fraude électorale et la menace que fait peser sur la souveraineté nationale l'accord de libre-échange nord-américain. Sous la pression de l'armée, qui intervient massivement, les rebelles apatistes se retirent bientôt des villes investies pour gagner les zones montagneuses et boisées que l'aviation bombarde. Alors, donc, depuis, les apatistes s'organisent dans tous les domaines de la société, l'éducation, la santé, l'alimentation, la justice, entre autres, et puis luttent aussi contre toute forme de discrimination. Sur le site Zapatista 2021, on peut lire qu'après 500 ans de colonisation du Mexique, les apatistes et le Congrès national indigène, qui rassemble les peuples autochtones en lutte contre leur extermination et contre le saccage capitaliste, ont décidé de traverser l'océan Atlantique. Cette grande délégation d'au moins une centaine de personnes, constituée en majorité de femmes, viendra exprimer d'une part, les communautés autochtones du Mexique n'ont toujours pas été conquises, mais aussi rencontrer les luttes européennes sur leur territoire afin de tisser des alliances et de partager des convictions et des énergies communes, comme par exemple la défense de la vie, l'autonomie politique et le combat contre toutes les formes de domination. C'est donc dans le cadre de ce voyage pour la vie que des groupes de cette délégation seront de passage en France et on l'espère à Lille et à Lens-Liévin fin octobre. Un repas est organisé ce samedi 2 octobre à 19h au Café La Moulinette de Lille pour récolter de l'argent et soutenir ce voyage. Tout de suite, on écoute Roxane qui nous parle de cet événement.
Nous sommes ce soir à une réunion de préparation de l'accueil d'une délégation zapatiste dans le Nord et dans le bassin minier. Et il se passe quelque chose samedi soir à Lille.
Oui, effectivement, il va y avoir une cantine qui sera organisée afin de récolter des fonds pour recevoir les camarades zapatistes qui viendront fin octobre, on l'espère en tout cas, pendant une semaine. Et on voudrait les accueillir pour présenter nos luttes ici à Lille, mais aussi dans la région du Nord, du Pas-de-Calais. Voilà, donc on fait cette cantine au café La Moulinette à Moulins, samedi soir. Et on va essayer de faire des faritas, mais bon, ça c'est... Ce sera la surprise du moment.
Alors, pour les gourmands, c'est à partir de quelle heure?
On va dire qu'à partir de 19h, les gens peuvent venir. Et de toute façon, le café est ouvert pour ceux qui arriveraient plus tôt.
Et pour les personnes qui aiment cuisiner dans une bonne ambiance?
Eh ben, ils peuvent venir nous aider à cuisiner. On va commencer à préparer vers 15h30.
Alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du mouvement zapatiste? Qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire de ce mouvement?
Ben justement, je pense que c'est parce qu'on ne les connaît pas assez qu'on aimerait les accueillir. D'abord pour que nous, on leur parle de nos luttes, mais aussi pour que nous, on les entende parler des leurs. Et je pense que c'est dans l'échange, dans la compréhension. Me semble intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un mouvement qui naît à partir du monde paysan, dans le Mexique, des montagnes. Et ça me semble intéressant de voir comment aussi on peut en arriver à des luttes anticapitalistes à partir de leurs propres réflexions. Il y a des différences. On sait que voilà, ils sont plutôt dans des modes d'organisation plutôt militaristes. Et ça peut nous surprendre, nous ici militants. Mais on sera dans l'échange pour essayer de se comprendre mutuellement.
Oui, là, il y a un programme de rencontres avec différents collectifs engagés de Lille, du bassin minier, et puis plus largement, c'est ce qui est prévu dans toute la France, toute la zone 2 et dans toute l'Europe pour le temps de leur voyage, leur voyage pour la vie. Et ce soir, à la CNT, il y a plusieurs représentants de plein d'organisations. Toi, tu représentes la Moulinette, peut-être également autre chose ?
Non, moi, je représente une association de quartier sur Ronchin qui se charge chaque année de recevoir et de distribuer le café qui nous vient directement du Chiapas, un café qui est produit localement, qui est bio, équitable, sans label, et qui en fait est produit par les paysans localement et qui est distribué par l'association Échange Solidaire Voilà, donc localement, on reçoit cela. Ce qui est intéressant dans cet échange, c'est que finalement, on court-circuite le circuit habituel de distribution du café, où les distributeurs se mettent énormément d'argent dans la poche. Cet argent, est restitué à des caracoles. Localement, qui permettent de compenser les services publics que n'ont pas, puisque le gouvernement mexicain prive les paysans du Chiapas de services publics en guise de représailles. Et donc, les caracoles viennent se substituer aux hôpitaux, aux écoles, pour que la vie soit possible dans les montagnes du Chiapas.
Donc, votre association, en faisant ce commerce, contribue notamment à leur indépendance économique ?
Voilà, donc on finance bien sûr les coopératives, mais on finance aussi les caracoles qui se substituent aux services publics.
Et donc, pour les personnes qui veulent s'intéresser à tout ça et éventuellement bien manger samedi soir, on rappelle peut-être la date, le 2 octobre.
C'est ça. Samedi 2 octobre, à partir de 19h, au Café Cantine La Moulinette.
Et ce sera à prix libre ?
Alors, c'est une cantine prix libre, tout à fait.
La gente pobre no tiene lugar.
On vient d'entendre la Carencia du groupe Panteón Rococó, Cette fanfare mexicaine accompagne depuis plus de 20 ans la bande-son des révoltes zapatistes et des luttes altermondialistes. On enchaîne avec la lecture d'un communiqué du collectif ACAD en date du 1er octobre 2021. De mieux en mieux, Internet par satellite. Stop à la privatisation du ciel étoilé qui n'est pas à vendre. Les milliardaires de la Silicon Valley, Elon Musk, Tesla, SpaceX, Jeff Bezos, Amazon ou encore Bill Gates, Microsoft, fourbissent leurs armes pour envoyer en orbite basse des constellations de dizaines de milliers de satellites. Le seul réseau satellitaire Starlink, soutenu par Elon Musk, devrait à terme compter plus de 40 000 satellites. Avant ce nouveau far web, l'espace compte 2063 satellites. Le ciel n'est pas à vendre. Ce qui est en train de se passer au-dessus de nos têtes est une véritable catastrophe pour le vivant. Un peu partout dans le monde, mais pas en France, on a manifesté contre le projet de fou furieux dont le plus grand est Starlink de M. Elon Musk, homme si puissant qu'il a vassalisé la NASA, organisme spatial de la première puissance mondiale. Aujourd'hui, nos écrans s'esbaudissent de l'exploit de M. Musk d'avoir envoyé en l'air des touristes milliardaires. Nous avons envoyé à notre gloire nationale, Thomas Pesquet, les appels des scientifiques de l'espace en lui disant que nous avons un peu honte. Le groupe nantais a été très étonné d'avoir été presque les seuls en France, mais en Europe aussi, à l'exception notable de nos amis belges au mois de mars, à avoir interpellé sur ce problème de l'assassinat du ciel en cours. Dans la classe politique, seuls les députés de la France insoumise ont alerté la représentation nationale sur cette question. Mais aucun écologiste, ni quiconque, ne se préoccupe de ces questions. Aucune ONG, très inquiétant. Les astronomes, les astrophysiciens, les météorologues, l'aviation civile et aujourd'hui enfin quelques astronautes lancent un cri d'alarme contre ce projet satellitaire de 5G et 6G avec déjà les Chinois en avance. Discuter d'énergie durable, de transition, de ceci et de cela, sans comprendre ce qui se passe dans l'espace en ce moment, en devient à nos yeux un peu dérisoire. Conséquences immédiates. Ionosphère et magnétosphère abîmées définitivement. Très grave atteinte aux océans, conséquences irrémédiables sur le vivant. Accidents et carambolages de satellites dans ce nouveau Far West céleste. Bombardement d'ondes nuisibles depuis le ciel, sans le moindre espace préservé sur la Terre. On est en train de faire du ciel une véritable poubelle, une destruction de l'écosystème général, comme on l'a déjà fait des océans et des forêts, et du reste. Il faut signer la pétition de l'association Agir pour l'environnement, pour nous et nos enfants, pour ce qui reste du vivant, et à défaut pour notre planète, nos astronomes, etc. Vous retrouverez en plus détaillé ces informations sur le site du collectif ACAD, anti-compteur communicant Artois Douaisis, qui s'oppose au compteur communicant à la 5G et à la numérisation de la société. Sur le site internet collectif-acad.fr. C'est terminé donc pour ce communiqué. Tout de suite, on écoute un reportage de Lucien réalisé lors du rassemblement pour les retraites vendredi 1er octobre à Lens.
Ce 1er octobre, 9 organisations syndicales et associatives se mobilisent pour la défense des retraites, l'augmentation immédiate des pensions, retraites de base et complémentaires, pour la protection sociale et les services publics. C'est en effet en septembre, octobre et novembre que se voteront les budgets de la sécurité sociale et la loi de finances. De nombreux rassemblements se tiennent donc ce jour dans toute la France. Nous étions pour notre part présents au rassemblement de Lens. Nous donnons tout d'abord la parole à l'un des organisateurs.
Donc aujourd'hui, 1er octobre, c'est le Rassemblement national des retraités pour l'augmentation des retraites. 100 euros tout de suite, voire 300 euros rapidement, parce qu'on voit aujourd'hui, y compris avec les nouvelles augmentations de l'énergie, du pétrole, qui a besoin d'augmenter les retraites. Sinon, ça va être compliqué pour beaucoup de monde. Ensuite, une protection sociale de haut niveau et des services publics de proximité, parce que bon, Internet, c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, comme il y a réduction d'effectifs, ça devient compliqué quand même pour joindre les différents services. Donc on a fait une pétition et à ce jour, c'est à peu près 10 000 signatures qu'on a obtenues dans le département, ce qui n'est pas rien. Mes contentements est réellement présent, qu'on va déposer donc cet après-midi à la préfecture. Et on aura une rencontre aussi avec le département pour exiger une réelle loi sur la perte d'autonomie, parce que là aussi, besoin de donner des moyens pour avoir des effectifs dans les EHPAD, des effectifs à domicile, mais aussi un statut de haut niveau pour les salariés.
Alors tout cet argent, où est-ce qu'on le prend ?
Ah bah tout cet argent, on peut le prendre, et il faut le prendre dans la poche des riches, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui les dividendes augmentent, les profits augmentent. À titre d'exemple que j'ai encore dans la tête, une grande dame dans les parfums qui touchait un SMIC tous les 3 minutes, et de l'autre côté, on n'aurait pas les moyens d'augmenter les retraites et puis les salaires et de donner des moyens à la protection sociale, c'est intolérable.
Une dernière question, hein, le 23 septembre, c'était manif des enseignants. Aujourd'hui, manif des retraités. Le 5 octobre, manif interprofessionnel. Quand est-ce et qu'on met tout ça en musique ?
Alors, effectivement, il y a eu diverses actions, le 23, le 1er octobre. Le 5 octobre, il y a une action nationale actif et retraité et unitaire aussi, et donc qui permettra d'avoir un nouvel élan pour le rassemblement des salariés et des retraités. Et concernant nous, les retraités, on envisage une action nationale en décembre avec une manifestation nationale à Paris.
Nous tendons ensuite notre micro à quelques participantes et participants.
Aujourd'hui, nous sommes là rassemblés pour justement défendre nos retraites principalement. Nous, on se retrouve avec moins en moins de ressources à la fin du mois, étant donné que nos retraites depuis plus de 2 ans, il n'y a eu aucune augmentation. Tout augmente. On en parlait hier, le chauffage, l'électricité, l'eau. On se sent un petit peu isolé, nous retraités, après avoir accompli beaucoup d'années de travail, on se retrouve là devant un mur. Personne ne nous écoute.
Moi, je suis là en tant qu'association LSR, Loisirs Solidarité des Retraités. Il y a 150 associations dans toute la France, comme la nôtre. Et donc, l'objectif, c'est de faire sortir les retraités de chez eux, de la télé, qu'on considère comme un poison. Et donc, sous différentes formes, de vacances, de randonnées, enfin, de toutes sortes d'activités. Et en même temps, on est associé au plan national, au groupe des 9, donc avec la CGT, Force Ouvrière, CFTC, enfin en clair, quasiment tous les syndicats sauf CFDT. Et ici au niveau local, on est associé au niveau départemental, on est associé au groupe des 7. Ce sont les mêmes syndicats sauf CFDT. Donc le but, c'est aussi en tant qu'association de revendiquer, parce que si on veut avoir une vie nouvelle qui est la retraite, si on veut avoir une vie de loisir auquel tous les retraités ont droit, il faut aussi avoir un pouvoir d'achat décent. Après, ce sont aussi les salariés, les retraités, enfin tout le peuple qui souffre quand même de cette politique qui est menée depuis des années et des années. Donc c'est aussi il faut aussi promouvoir la réaction populaire pour qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est pas effectivement aujourd'hui c'est un rassemblement, mais il faut aussi que les gens d'abord sortent de cette télévision qui les asphyxie, quoi. Puis ici, on est encore dans la pandémie où on a anesthésié les gens, quoi, en les confinant chez eux. Donc, c'est difficile de... Maintenant, il faut rétablir à nouveau les relations humaines et les relations sociales entre les gens, quoi. Pour les amener, justement, à se dire, on ne peut plus laisser faire. Et ce n'est pas uniquement que les affaires des syndicats, c'est aussi l'affaire des millions de gens qui souffrent de cette politique, là.
Moi je suis venue avec une collègue enseignante. Nous sommes enseignants retraités. Nous étions syndiqués à la FSU. Alors nous trouvons qu'à l'heure actuelle, les conditions de vie des retraités se dégradent. Alors que de l'argent, il y en a. On s'est aperçu quand même que les millionnaires, le nombre de millionnaires pendant les 4 ou 5 dernières années, ils ont fait des bénéfices fantastiques. Et nous, c'est encore à nous qu'on va demander de payer une CSG plus importante. Et on s'en prend toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux classes moyennes ou aux petits. Donc on ne peut pas accepter ça. Et en plus, en tant qu'enseignant, moi je suis scandalisée par ce qui se passe au niveau du bac, puisque j'étais en lycée, et ça rejoint quand même la réforme Blanquer, où on supprime le bac au profit du contrôle continu. On a fait une rentrée avec 1800 postes d'enseignants supprimés. Donc ça, je ne peux pas l'accepter, ce n'est pas possible. Et tout se rejoint finalement. Hein. La retraite, les conditions de travail, etc. Voilà. Mais là, ici, quand même, il y a au moins une dizaine de fédérations de retraités qui se sont regroupées, là. Il y a la FSU, il y a la CGT, il y a une dizaine de... Donc ça, c'est vrai que c'est l'unité. Joël va vous dire quelques mots, quand même. Si, vas-y.
Moi, j'insisterai sur le fait que, en fait, les prix augmentent, le gaz en particulier... Bientôt l'électricité, tout augmente sauf nos pensions qui sont gelées pratiquement depuis une dizaine d'années.
Je m'appelle Jean-Yves, je suis le retraité CGT, je travaillais au CHR de Lille pour défendre les intérêts des retraités qui sont attaqués régulièrement et là notamment dans cette période de crise où on n'est pas revalorisé. Les pensions soient revalorisées au moins au niveau de l'inflation, au minimum quoi. Je pense que les gens malheureusement sont pas prêts à un gros mouvement parce qu'ils ont tous l'impression qu'on fait que des coups. Et alors, là, je m'adresse plus aux dirigeants syndicaux, c'est quand est-ce qu'ils arrivent à se mettre ensemble pour fédérer quelque chose de fort et durable. Mais ça, c'est un espoir pour l'instant.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Vous êtes toujours dans l'émission Micro-rebelle Hebdo en direct sur notre site internet et rediffusée sur Radio PFM 99.9 à Arras. À présent, nous vous proposons un point sur la situation à Calais avec des extraits du dernier communiqué de Human Rights Observers. Alors, c'est un communiqué de presse du 28 septembre 2021. Destruction du lieu de vie de la zone du Virval hier matin. Pour la 883e fois depuis janvier 2021, l'État harcèle, vole et violente les personnes en situation d'exil à Calais. À Calais, la précarisation des personnes exilées, orchestrée par l'État, continue. Un an après la dernière destruction du lieu de vie de la zone du Virval, dit « hospital », ce mardi 28 septembre 2021, entre 6h et 11h, un dispositif policier disproportionné a été mis en place pour expulser de nouveau des personnes en situation d'exil sous couvert d'une opération de mise à l'abri. Cette opération de mise à l'abri n'en respecte pas les principes fondamentaux puisqu'elle s'est déroulée sous la contrainte. Les membres de Human Rights Observers, présents sur place, peuvent témoigner du caractère forcé de celle-ci au regard de plusieurs éléments qui seront présentés dans ce communiqué de presse. La présence massive et intimidante des forces de l'ordre surarmées d'équipements anti-émeutes, tonfa, matraque, gazeuse, taser, lanceur de balles de défense ou lanceur chouka, a pour objectif d'encadrer l'opération afin de rendre la montée dans les bus obligatoire. Les équipes de nettoyage de la société APC, qui accompagnent le dispositif policier, ont saisi au moins 450 tentes. Ces équipes ont reçu l'ordre de saisir l'intégralité des effets que les personnes n'ont pas eu le temps de prendre avec elles. Les membres Human Rights Observers ont notamment pu voir des saisies de valises, de sacs à dos remplis d'effets personnels et de poussettes. Le caractère contraignant de cette mise à l'abri était d'autant plus visible que les forces de l'ordre ont établi un périmètre à l'intérieur duquel aucune personne n'était autorisée à sortir, et cela même pour retrouver les membres de leur famille restés plus loin. La justice est déjà venue rappeler qu'une mesure de mise à l'abri ne peut être mise en œuvre qu'avec le consentement express des personnes et sans contrainte. Par ailleurs, l'ordonnance d'expulsion censée informer les personnes sur l'opération à venir et sur ses modalités n'a pas été affichée dans un délai raisonnable permettant aux personnes concernées d'en prendre connaissance. Cette mise à l'abri forcée, comme toutes celles qui l'ont précédée, n'a pour but que d'éloigner des personnes exilées de la frontière franco-britannique en dépit de toute considération humaine et respect du droit. Alors que les politiques publiques se glorifient d'avoir de meilleures conditions de vie, d'offrir de meilleures conditions de vie aux personnes exilées via des mises à l'abri, nous dénonçons le caractère forcé de celles-ci. Un dispositif policier disproportionné, des personnes empêchées de quitter le périmètre et escortées jusqu'au bus sans en connaître la destination, et la saisie de leurs abris et biens personnels. Ces pratiques ne peuvent pas être considérées comme une orientation des personnes vers des structures adaptées sans leur consentement exprès et préalable. Ce matin, les violences d'État ont augmenté d'un cran avec l'affichage d'un arrêté visant à rendre inoccupable le terrain expulsé hier et à interdire toute présence associative, empêchant ainsi les distributions de nourriture, de biens non alimentaires et l'accès aux services essentiels. Nous dénonçons cette pratique de la terre brûlée, si souvent utilisée à Calais, et demandons la suspension des expulsions de lieux de vie et l'accès libre et volontaire à des services et hébergements adaptés aux besoins des personnes concernées. Les associations signataires de ce communiqué de presse sont Human Rights Observers, l'Auberge des migrants, Secours catholique, la Cabane juridique, Utopia 56, Chanty, Calais Food Collective, Refugee Infobus, Terre d'errance, Noranfonte. Tout de suite, on va écouter l'agenda social et culturel. Alors, au programme de cette semaine, samedi 2 octobre à 10h au lac de Liévin. Rencontre-débat avec Adeline de Lépinay, auteur de « Organisons-nous », manuel critique autour des contradictions qui traversent l'organisation collective. Entrée libre, la jauge est limitée à 25 personnes. Les inscriptions sont conseillées à l'adresse contact@lelac.fr. Cette rencontre s'inscrit dans la préparation des rencontres de l'éducation populaire le 6 novembre au LAG. Samedi 2 octobre, à 15h, à Roubaix Eurotéléport. Rassemblement animation thé offert. Voici l'appel du comité des sans-papiers 59. Des mairies organisent la solidarité avec les réfugiés afghans-afghanes victimes de la guerre, du terrorisme et du fanatisme. Le CSP 59 appelle tous les sans-papiers et soutiens de la lutte pour la régularisation à s'y associer en collectant couvertures, draps, vêtements, chaussures pour enfants et adultes et fournitures scolaires, etc. Vous pouvez déposer vos dons solidaires au local du CSP 59. Le CSP 59 a déjà fait de telles solidarités en direction de la jungle de Calais et des squats regroupant français-françaises, immigrés réguliers-régulières et sans papiers, sans logis. Le CSP 59 rappelle que les exilés, réfugiés des pays où sévissent la guerre et le terrorisme, ont droit à l'asile et donc à la régularisation avec une carte de résident de 10 ans. Le CSP 59 invite les mairies à organiser des parrainages républicains pour prolonger l'accueil solidaire des victimes fuyant les guerres et le terrorisme. Mardi 5 octobre à 14h30 à Lille. Manifestation unitaire pour l'emploi. Les salaires, les retraites, la protection sociale, l'égalité professionnelle. Le mot d'ordre est « Tous unis pour nos droits ». Et enfin, on terminera l'agenda par cette dernière date. Mercredi 6 octobre, à 18h, place de la République à Lille. Manifestation pour la défense des personnes sans papiers. Parce que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. Défendons nos camarades sans papiers, persécutés par un État xénophobe, pour le seul motif de ne pas être né en France. Alors, on se dirige tranquillement mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, je vous propose d'écouter donc un reportage réalisé par Didier lors du rassemblement contre le projet Tropicalia.
Nous n'avons qu'une dizaine d'années pour réagir. La catastrophe est déjà là, avec son lot d'inondations ici, d'incendies, de sécheresses, de pics de chaleur ailleurs. Changer de cap pour amortir le choc devrait être la priorité absolue de nos gouvernants, mais il n'en est rien. Ils s'acharnent à faire perdurer le vieux monde, de plus en plus injuste, que ce soit entre le Nord et le Sud global ou entre les classes sociales, de plus en plus prédateur des ressources, de plus en plus polluant, destructeur de l'environnement, des liens humains et de la démocratie. Il faut rompre avec ce système qui se nourrit entre autres de projets financiers insensés dont Tropicalia est un exemple caricatural.
Le 18 septembre, dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réintoxication du monde, avait lieu une manifestation contre le projet Tropicalia, projet de serre tropicale, sur la côte d'Opale. Grand projet inutile, symbole du monde d'hier, ce projet interroge la croissance économique, notre empreinte écologique, l'urgence climatique, notamment à une échelle locale. Didier était à Montreuil lors de cette manifestation. Il s'est entretenu avec Christine des Objecteurs et Objectrices de Croissance 62, une militante d'Extinction Rebellion au sujet de Borealia 2 et un maire fondateur du groupe Stop Érosion. Outre Tropicalia, d'autres projets sont dans le viseur du mouvement social écologiste, Pure Salmon à Boulogne-sur-Mer, Borealia 2 à Amiens, mais encore la prolifération de plateformes logistiques comme celle d'Amazon partout en région.
Nous venons d'entendre Christine Poilly qui s'exprimait pour les Objecteurs de Croissance. Alors Christine, on a entendu tes propos, est-ce que tu peux nous préciser un peu qu'est-ce qui différencierait finalement les Objecteurs de Croissance de Delphine Bateau?
De Delphine Bateau. Ben, je crois que Delphine Bateau a une décroissance très technocratique, limite autoritaire, et c'est pas du tout le projet convivial et autogestionnaire dont nous avons envie.
Est-ce qu'au moins Delphine Bateau aurait l'utilité de faire parler de la décroissance en cette période de primaire écologique?
Certainement, mais j'ai un peu peur qu'elle fasse plus peur. Qu'elle arrange un petit peu nos affaires. Parce que moi, je la sens très autoritaire, Delphine Bateau, ce qui pour nous est vraiment le contraire de notre projet. On veut un projet convivial, un projet dans une démocratie très relocalisée, dans une atmosphère très conviviale. Et je pense qu'on en sera assez loin avec Delphine Bateau. J'ai donc peur qu'elle fasse un peu peur.
C'est clair, par contre, la décroissance ne présente pas de candidat aux élections.
Mais dans ce contexte où la seule religion possible, la seule voix entendue par les médias est la croissance, je ne sais pas s'il est souhaitable de présenter un candidat qui, de toute façon, sera ridiculisé par les médias. Je pense que c'est entre les élections qu'il va falloir agir, qu'il va falloir mettre un petit peu d'utopie, un petit peu de... de réalisme dans la tête de nos concitoyens en discutant. La décroissance est déjà beaucoup plus largement acceptée par nos concitoyens qu'elle ne l'était avant. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas prise au sérieux ni par les médias, ni par les gouvernants. Et du coup, je pense que pour en arriver à un vote décroissant, ça prendra encore du temps. Et c'est pas donc pas la peine d'aller abîmer la décroissance en l'exposant aux médias. C'est trop tôt pour un candidat à la présidentielle.
Par contre, est-ce que tu penses finalement, puisque le rapport du GIEC est de plus en plus clair et de plus en plus alarmant, est-ce que tu penses qu'on a du temps ?
Je pense qu'on n'a pas de temps, mais que de toute façon, on n'est pas dans un système complètement démocratique et que les élections présidentielles sont jouées d'avance. Et par conséquent, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Au contraire, notre temps, il faut l'économiser et s'investir dans les luttes, s'investir dans les alternatives concrètes qui seules peuvent nous permettre de... à la fois de mettre une petite pierre dans leur système bien huilé et aussi de créer des lieux de résilience. Il faut en créer autant que possible parce que malheureusement, je pense que nos petits-enfants en auront bien besoin.
Herbes, arbres, fleurs, lichens, sable, coquillages, terre, ripisylves, vestuaires, friches, sauvagerie, tant de vies non nommées. Voilà où vivent encore saumons, baleines, marsouins, esturgeons, loups, insectes et grands mammifères. Grandes et petites vies, vies inconnues, vies non nommées, sont notre vie. Nous traversent, nous font, nous oxygènent, nous nourrissent, peuplent nos rêves. Vous n'avez pas réussi à les exterminer. Nous sommes unis sous la fleur du ciel pour y sentir le parfum de sa force. Nous refusons de voir la vie enfermée sous vos dômes, dans vos prisons. Nous voulons vivre libre, loin de votre monde carcéral et morbide, de votre monde marchandise, de votre empire et de votre mépris. Les saumons nous guident, les oiseaux nous prêtent leurs ailes, les insectes et les arbres leurs chants. Nous refusons votre monde, son énergie, son atome, sa coercition, sa domination, sa domestication. Nous avons nos rêves, nous refusons les vôtres, votre cauchemar. Vous, ce sont les décideurs du projet, ce sont la préfecture et l'État capitaliste, l'empire qui tue, assassine, emprisonne toutes ces vies, à sa seule fin de domination, pour le profit et la folie de votre monde. Nous voulons votre fin, être votre cauchemar, vivre enfin nos rêves.
Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet qui va créer tellement d'emplois ?
Le projet Borealia 2, c'est un projet d'artificialisation des terres qui se situe à la sortie d'une autoroute qui vise à vendre des lots à des entreprises de type logistique. Et donc on sait que, par exemple, Amazon qui s'est créé à Amiens, ça a été surtout des pertes d'emplois en centre-ville. Et donc, quand on fait le calcul, en fait, c'est de la perte d'emplois. On se bat contre l'artificialisation des sols, qui est quand même une problématique que même le gouvernement porte, finalement. Enfin,
mal, peut-être.
C'est un projet qui existe depuis 1996 et que la métropole a décidé de ressortir maintenant. Pour l'instant, la première phase, c'est 60 hectares d'artificialisation avec des lots à vendre à des entreprises. Et puis, à terme, en tout, ça serait 190 hectares de terres agricoles artificialisées. Donc, quand on prend en compte les risques, la dégradation de notre environnement et les risques par rapport à l'alimentation des populations urbaines, artificialiser les terrains agricoles, c'est une aberration. Quand on réfléchit à l'écoulement des eaux pluviales, c'est pareil. On sait que l'artificialisation des sols ne permet pas aux nappes phréatiques de se renouveler. Et donc voilà, donc c'est ni un projet économique intéressant. Socialement, les entreprises de logistique n'apportent pas des emplois ni pérennes, ni bienveillants vis-à-vis des travailleurs, et puis c'est une catastrophe environnementale en soi.
Donc vous êtes sur une problématique qui est à la fois écolo mais sociale, si je te comprends bien.
Tout à fait, c'est vraiment on tient vraiment à ce que ces différents pans soient visibles à travers notre lutte, parce qu'on veut on nous traite toujours d'anti-emploi et que les mouvements écolos sont sont hors sol par rapport aux problématiques sociales, alors que pour nous, pas du tout. D'ailleurs, le développement durable crée des projets qui sont durables, justement, créent des emplois pérennes et sont des emplois avec des plus hauts des plus hauts niveaux de compétences, des emplois où les gens sont mieux. Excusez-moi, j'ai pas tous les mots.
Non, mais de meilleure qualité sociale, ouais, voilà, bien sûr. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Extinction Rebellion sur le secteur ?
Donc à Amiens, le groupe s'est créé il y a 2 ans. C'est à peu près à ce moment-là que les différents groupes locaux sont créés sur les Hauts-de-France. Donc on est plutôt en cordeau. On essaye de se tenir au courant des luttes les uns des autres pour se prêter main forte. C'est tous les groupes des Hauts-de-France, en tout cas, ça je peux en être témoin, sont vraiment inscrits dans des luttes environnementales liées aussi à une politique populaire et sociale. Et du coup, on est un groupe de groupes, une cordeau de groupes cohérente au niveau de nos convictions et sur la manière de mener la lutte et surtout sur les grands projets inutiles et au détriment des populations locales en fait. Ça, donc on est très, très cohérent dans ce qu'on a envie de faire au niveau des Hauts-de-France et ça du coup on se renforce là-dessus et voilà.
On peut rejoindre comment Extinction Rebellion ?
Alors, on a des pages Facebook, ce qui est quand même le plus simple. Ensuite, vous tapez Extinction Rébellion France dans Google, vous tombez sur la page d'accueil nationale où vous pouvez retrouver les contacts de chaque groupe locaux. Et donc, à partir de là, vous pouvez nous envoyer des mails si vous êtes dans le coin. Et nous, on vous accueille à bras ouverts et hasta la victoria.
Siempre. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie de toutes les précisions que tu as pu nous apporter. Et puis encore bravo pour ton intervention tout à l'heure.
Merci. Et l'agriculture, il n'est pas normal que dans notre région, nos enfants n'aient pas une alimentation saine, de qualité et de proximité. Et on nous dit quoi ? Ben, il faut continuer dans notre région. Allez, continuons l'agriculture productiviste avec des pesticides.
Je vais maintenant interviewer un maire qui a fondé un collectif contre l'érosion des sols, donc je le laisse se présenter.
Donc je m'appelle Gauthier Benoît, donc je suis maire d'une petite commune de 50 habitants qui s'appelle Avennes, donc c'est dans le haut pays montreuillois. Voilà, donc l'hiver dernier on a constaté avec pas mal de communes qu'il y avait eu pas mal d'inondations, hein. C'était vraiment catastrophique même par endroit. Et j'ai eu l'idée en fait de créer un collectif qui s'appelle Collectif Stop Érosion pour fédérer un peu tous les gens victimes de des inondations et puis aussi alerter sur l'érosion des sols qui fait partir tout ce qui est richesse de notre terre dans les rivières et une chose qui ne reviendra jamais, qui pourra jamais. Enfin, on va mettre beaucoup de temps à régénérer les sols. Pour que ça se régénère, il faut des dizaines et des dizaines d'années. La terre, pour la créer, il faut des dizaines et des dizaines d'années. C'est notre patrimoine qui s'en va. C'est notre patrimoine pour nos enfants qui s'en va. Et je voulais alerter là-dessus et créer un collectif pour que les gens puissent essayer de trouver des idées et puis qu'on puisse réfléchir sur cette thématique-là.
D'accord. Alors cette érosion, on voit à peu près quelles causes, mais pour vous, les causes principales de cette érosion aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, l'agriculture intensive et puis aussi l'urbanisation intensive et irréfléchie sur certains secteurs, ça génère aujourd'hui l'érosion des sols. Donc on peut pas tirer à boulet rouge sur les agriculteurs puisqu'il y en a quand même qui essayent de trouver des solutions. La principale cause ne vient, c'est pas eux qui sont le gros problème de tout ça. Il faut vraiment souligner aussi l'urbanisation, l'artificialisation des sols et des projets comme Tropicalia aujourd'hui en font partie. Et on va pas rajouter une goutte d'eau pour faire déborder le vase avec un projet comme ça. Et voilà, aujourd'hui il faut vraiment sauvegarder nos sols, redonner de la vie à nos sols parce que les sols aujourd'hui sont morts et c'est pour ça qu'on assiste à un ruissellement et à une érosion qui devient de plus en plus permanente.
Ouais, d'accord, je l'ai vu, moi, habitant d'Ourier, j'ai vu sur les coteaux comment ça a pu dévaler cet hiver. Alors, par rapport à ce collectif, un peu le nombre, comment vous en êtes où aujourd'hui, là, un an après ou un peu plus d'un an après ?
Dans les membres qui ont adhéré sur les réseaux, on était 200 au moment où en fait l'émotion était la plus intense, on va dire. Des membres qui aujourd'hui, c'est vrai que c'est cyclique, c'est-à-dire que quand il fait beau, les gens ils s'en contrefichent, mais dès que ça revient, dès que les inondations refont surface, là forcément on se réintéresse au sujet. Et la problématique, la plus grande problématique de cette de ce sujet, c'est qu'il faudrait que tout, qu'on puisse y travailler sur le long terme et toute l'année. Et voilà, donc aujourd'hui il y a des gens qui ont pris parti, qui ont travaillé avec nous et qui ont pu essayer de trouver des solutions et essayer de voir si on peut faire alerter d'autres élus locaux pour cela et les intercommunalités, mais c'est vrai que la tâche est difficile.
Justement, vos collègues élus locaux, vous en êtes où en termes de... C'est reçu comment, positivement ou en attente?
Il y a des gens qui soutiennent, après c'est quand même plutôt rare. C'est plutôt rare. Dans le milieu rural, c'est plutôt rare.
Bah dans tous les cas, je vous remercie à la fois de ces précisions et puis surtout du travail que vous avez entrepris, hein, que moi je suis en tant que citoyen sur Facebook. On a d'ailleurs répondu à une enquête d'utilité publique il y a quelques temps sur le projet de Fascine et autres. Bah, on sera certainement amené à se revoir et puis à reprendre un petit peu vos impressions et puis l'avancée de vos travaux. D'accord. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
Un reportage de Didier lors de la manifestation Non à Tropicalia à Montreuil-sur-Mer le 18 septembre dernier.
Pour être confinés, laissons les vivre chez eux, dehors en Amérique. Laissons les vivre joyeux en Martinique. Tropicalia jamais ne se fera. Tropicalia jamais ne se fera.
Voilà, donc cette émission Micro-Rebelle Hebdo touche à sa fin, mais il reste encore quelques minutes. Avant de se quitter, je voudrais juste repréciser que donc les deux reportages que vous avez entendus lors de cette émission sur donc la manifestation, le rassemblement plutôt pour les retraites et là le rassemblement contre le projet Tropicalia sont disponibles en tant que tel sur le site internet de Micro-Rebelle, donc vous pouvez les réécouter si besoin, tout comme cette émission hein, qui sera entièrement diffusée sur le site, donc écoutable en ligne et podcastable, téléchargeable. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos et on se quitte en musique avec Happy Crassy de Veilleuse sur l'album La Fête Obligatoire.
Dans le jardin d'Éden, la vie est un grand jeu. Pas de place pour la haine, ni les débats houleux. Tout ce qu'on y entend sont les messages d'espoir. C'est l'éternel printemps, la fête obligatoire. Le bonheur devenu emblème, dégouline encore et encore. Des bouches gonflées comme les œdèmes d'un paradis technicolore. Du flic au fossoyeur, tout le monde. On vit dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Libérés de la peur, non violents comme Gandhi. Triomphe du bonheur au pays. Au pays de Candy. Dans cette jungle, les tigres ont des pattes de velours. Personne dans leur discours. Jamais plus ils ne veulent surveiller et punir. On s'en charge tout seul et avec le sourire. Quand le bonheur retourne sa veste, nous laissant lambeaux lessivés. Quand pleurer tout ce qu'il nous reste, on s'efforce à positiver. Contre le mal de cœur, surtout reste bien assis. A-t-on dit là une dose d'ataraxie? N'écoute pas la douleur, redresse-toi et souris. Enfile tes écouteurs, ravis. chacun poursuit la quête du plaisir solitaire. Et docilement répète le mantra des experts. Le bonheur est une niche fiscale, ouverte aux riches, aux bien portants. Pour pouvoir décrocher le Graal, faut faire partie des dominants. Achète le bonheur, peu importe son prix. Sois fier d'être un winner, relève. La sortie du flic au fossoyeur, tout le monde le dit.